En début de campagne, ça a été une révolte, si vous voulez, de centre-droite, une révolte symbolisée par la création d'un nouveau parti centre-droite, justement la Nouvelle Alliance, qui se propose comme une sorte de recours pour le gouvernement, pour sauver, si on veut, le gouvernement de sa dépendance vis-à-vis du Parti populaire danois, qui est un parti xénophobe. Je crois que même si le gouvernement a des bonnes chances de survivre ce scrutin, c'est un peu le début de la fin. Parce que s'il survit, ce sera dans une coalition très instable avec la Nouvelle Alliance, et ce qui peut aboutir à de nouvelles élections assez rapidement. C'est quand même assez rare, dans un système aussi mûr politiquement que le système politique danois, que de voir un nouveau parti surgir et réussir, et en particulier un parti modéré. Généralement, lorsqu'on voit ce type de phénomène, c'est des partis aux extrêmes, à droite ou à gauche. Donc, c'est assez exceptionnel si la Nouvelle Alliance réussit à se placer dans une position charnière. Mais pour moi, la Nouvelle Alliance est un symbole d'une évolution plus générale, un symbole d'une sorte de révolte libérale vis-à-vis un gouvernement qui a été à la fois libéral, mais aussi nationaliste.
Alors justement, ces derniers mois, la société danoise a connu des relents xénophobes, on pense à l'affaire des caricatures. Quel est le véritable poids de l'extrême droite au Danemark ?
C'est une poussée qui n'est pas une poussée, je veux dire, nouvelle. C'est une position très stable, c'est-à-dire que le Parti populaire danois est au même niveau électoral depuis maintenant presque une dizaine d'années, c'est-à-dire qui obtient entre 11 et 13% des voix. Et ce qui est un peu remarquable aussi par rapport à d'autres partis populistes, c'est qu'il n'y a pas ni des crises, ni des flambées de soutien. Il reste d'une manière assez stable, assez 11, 12, 13% des voix. Et c'est un phénomène qui fait que, si vous voulez, la xénophobie qui découle de ce parti, c'est une xénophobie politique, institutionnelle, et non pas une xénophobie de société civile. L'atmosphère sociale ici n'est pas du tout xénophobe, c'est simplement que nous avons un parti xénophobe qui a une position stratégique et très influente au Parlement. Et je crois que la leçon pour l'Europe, c'est que la xénophobie n'est pas simplement un phénomène dû à une détresse sociale et économique. C'est un phénomène beaucoup plus politique et psychologique.
Dans un de vos articles, vous avez souligné que les électeurs attendraient très probablement que le gouvernement se prononce sur les valeurs danoises. Quelles sont ces valeurs, selon vous ?
Écoutez, les valeurs danoises sont en fait des valeurs quasi universelles, mais qui sont utilisées dans le contexte ici pour justement exclure la minorité musulmane en particulier et permettre un certain durcissement vis-à-vis du soi-disant défi islamique. Et c'est sous cette forme-là que les soi-disant valeurs danoises, qui sont en fait les valeurs démocratiques normales, sont mises en avant à cause de la prominence du thème du terrorisme et du thème de l'intégrisme. L'image du Danemark dans le monde, dans le tiers-monde en particulier, bien sûr au Moyen-Orient au plus haut degré, on a payé le prix. Les Danois ont été tout à fait choqués et surpris. Jamais le Danemark n'a été l'objet d'autant d'attention et d'intention malveillante internationale. Donc ça a été un traumatisme, et un traumatisme qui naturellement a donné lieu à un débat national intense et qui a en fait continué de diviser le pays. Est-ce qu'il s'agissait de xénophobie danoise ou est-ce qu'il s'agissait d'une nécessaire défense de la liberté de la presse ? C'est un débat qui continue ici.